Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Aujourd'hui, 12e dimanche après la Pentecôte, nous avons comme chant d'offertoire ce magnifique passage du livre de l'Exode qui nous rappelle l'intercession de Moïse pour le peuple hébreu. Pourquoi est-il obligé d'intercéder face à la colère divine qui veut exterminer ce peuple rebelle qui, pendant que Moïse était en train de recevoir les tables de la loi sur le mont Sinaï, s'est fabriqué un veau d'or? Revenons quelques chapitres en arrière dans ce livre de l'Exode. Trois mois après l'Exode en tant que tel, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, le peuple hébreu, après quelques vicissitudes, parvient au pied du mont Sinaï et après 2 jours de prière, il y a une manifestation divine sur ce mont Sinaï et Moïse reçoit les commandements de Dieu, donc d'une façon tout à fait développée. Et il transmet au peuple ses commandements de Dieu et le peuple acquiesce. Il y a une alliance avec Dieu, entre Dieu et son peuple. Des sacrifices sont offerts à Dieu. Et ensuite, Moïse remonte sur le mont Sinaï où il va demeurer pendant 40 jours et 40 nuits. Sans manger ni boire. Sur le mont Sinaï, il va recevoir encore d'autres instructions divines, notamment à ce moment-là, ce sont des instructions cérémonielles, c'est-à-dire pour organiser le culte de Dieu, toutes les instructions pour la fabrication de l'arche d'alliance, des ornements, des prêtres, etc. Malgré les manifestations divines, donc vous imaginez cette montagne du Sinaï, au-dessus il y a une lumière surnaturelle, malgré cela, au bout de 40 jours, les Hébreux ne voient pas Moïse descendre. Donc nous dit la Sainte Écriture, quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre, le peuple s'assembla près d'Aaron, Aaron c'est le frère de Moïse, et lui dit, Moïse lui avait confié la gouvernance du peuple, et lui dit, faisons-nous un Dieu qui aille devant nous. Aaron, il cède, pas de problème, donnez-moi tous vos bijoux, tout ça, on va le mettre dans le feu et puis fabriquer un veau d'or, en rappel des idoles d'Égypte, hein, justement, où Dieu qui était représenté de cette manière. Attention, ils ne reviennent pas ou ils ne vont pas vers le paganisme en tant que tel. Pour eux, ce veau d'or est censé représenter le vrai Dieu. C'est quand même un grave péché, bien entendu. Donc, au-delà de cette intercession de Moïse, à ce moment-là, Dieu lui dit « J'en ai marre de ton peuple, je vais l'exterminer, ils ont la nuque raide, quant à toi, eh bien oui, je te donnerai donc cette terre où coule le lait et le miel, etc. » Moïse intercède, il demande pardon, il rappelle l'alliance faite non seulement 40 jours auparavant, mais l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est l'offertoire d'aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi. Pourquoi Moïse en arrive là? Et pourquoi ces Hébreux à la nuque raide, je cite la Sainte Écriture, ces Juifs à la nuque raide, pourquoi ils vont se fabriquer le veau d'or? Parce que ils sont impatients. Leur premier péché est l'impatience. Nous ne savons pas ce qu'il en est de Moïse. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et donc, ils ont, selon eux, besoin d'une présence visible de Dieu. Alors même que sur la montagne, il y avait une nuée surnaturelle, une grande lumière et tout, ils réclament une présence divine, on va dire, plus immédiate. Premier péché, c'est donc l'impatience. Cette impatience va aller beaucoup plus loin, elle entraîne un oubli de ce qui se passe devant eux, un oubli de l'alliance qu'ils ont forgée avec Dieu 40 jours auparavant, c'est quand même pas très loin, ils ont promis devant Dieu et devant Moïse d'observer tous les commandements, et ils oublient cela. Ils veulent un Dieu qu'il marche devant eux, alors qu'ils ont promis de lutter contre les idoles 40 jours auparavant. Ils oublient également, avec la plus grande ingratitude, toutes les merveilles de Dieu. Ce n'est pas si loin. 3 mois plus 40 jours, etc. Donc, vous voyez, c'est moins de 6 mois après la sortie d'Égypte. Ça veut dire que moins de 6 mois auparavant, ils ont vu les 10 plaies d'Égypte, dont la dernière absolument terrible, avec tous les premiers-nés, hommes et bêtes des Égyptiens qui ont été tués par l'ange exterminateur. Ils ont été conduits par cette colonne de nuées merveilleuse. Et ils ont traversé à pied sec la mer Rouge avec, nous dit la Sainte Écriture, encore une fois, hein, c'est pas un phénomène naturel. La Sainte Écriture nous dit qu'il y avait comme un mur d'eau de chaque côté. Et ce mur va engloutir les chars et les cavaliers, n'est-ce pas, comme chantent Moïse et les Hébreux dans ce cantique, une fois qu'ils sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge. Ils ont eu encore d'autres miracles dans le désert. Malgré tout cela, eh bien, ils vont se fabriquer un veau d'or. Donc le premier péché, c'est l'impatience. C'est l'impatience et cela mène évidemment à la trahison. Nous devons nous garder aussi de l'impatience personnelle quand Dieu ne se manifeste pas comme nous le voudrions. Il nous arrive de prier et nous ne sommes pas exaucés. Il nous arrive de subir en quelque sorte les silences de Dieu. Et si notre dévotion, notre foi, notre prière est trop ancrée dans notre sentiment, eh bien, on va s'impatienter à chaque fois que ce sentiment religieux n'est pas satisfait. Première remarque. C'est l'impatience qui va être cause ensuite de nos manifestations finalement d'idolâtrie. Dans la norme même de cette idolâtrie des Hébreux, puisque j'insiste là-dessus, ils ne prétendent pas honorer d'autres dieux, même pas un dieu égyptien. Ils prétendent adorer le vrai Dieu, mais sous l'apparence d'un veau, ce qui est complètement indigne, bien sûr. Donc c'est un culte qui est dévoyé. L'impatience, elle existe aussi dans cette crise, donc à un niveau plus global, dans cette crise que subit l'Église depuis environ 70 ans maintenant. Hein. Ça commence à être assez long. Et l'impatience s'est manifestée bien avant 2025, hein, évidemment, et continue de se manifester de la même manière. On ne tolère pas que Dieu puisse se cacher de cette manière. On n'accepte pas que Dieu puisse laisser, puisque c'est le cas, l'Église sans un chef visible aujourd'hui. C'est le cas, c'est tout. Il y en a qui nous disent que ce n'est pas possible. Comme le répondrait saint Thomas d'Aquin de façon très réaliste, puisque c'est comme ça, c'est que c'est possible. Or, c'est comme ça, donc c'est possible. C'est tout. Voilà. La démonstration que Monsieur Prévost et ses prédécesseurs à partir de Montigny, Paul VI, ne sont pas papes est faite parce qu'ils n'ont pas les caractéristiques du pape, tout simplement, telles qu'elles ont été toujours crues dans l'Église, telles qu'elles ont été définies de manière solennelle, en particulier par le Concile du Vatican. D'ailleurs, Vatican I. Le deuxième, on le compte pas. Donc, on dira le Concile du Vatican. Donc, on s'impatiente et on va s'inventer des veaux d'or à la suite de cette impatience. Donc, dans notre vie, pour revenir au veau d'or, pour les Hébreux, c'est une tradition de l'Alliance, un oubli de la loi, puisqu'ils s'étaient engagés à ne pas fabriquer des idoles. Et pour nous autres, c'est la fabrication, finalement, de notre propre religion, de nos propres idoles. Puisqu'on n'admet pas la réalité que Dieu se cache, nous abandonne d'une certaine manière, que Dieu permet que l'Église soit actuellement sans chef visible. On n'admet pas. On est dans le déni et on est dans l'impatience. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se fabrique un veau d'or. On se fabrique une nouvelle foi, une nouvelle religion, un nouveau culte, tout simplement. Chacun à sa manière. Certains vont se fabriquer ce veau d'or, cette nouvelle religion, en se disant, eh bien, oui, Monsieur Prévost, Léon XIV, etc., ils sont véritablement papes, mais on n'a pas à leur obéir. Ils ne sont jamais infaillibles. Ils se trompent tout le temps. Ils ne gouvernent pas l'Église pour le bien des âmes, etc. On s'invente un veau d'or. On s'invente une fausse religion. Parce que c'est une fausse religion. Ces théories sont contre la foi, explicitement. Donc, c'est un veau d'or. Mais ça leur donne de la sécurité. Parce que ils se convainquent de ces erreurs. Et pour eux, eh bien, Dieu est encore présent parmi eux, sous l'apparence de cette fausse religion, comme il est présent sous l'apparence de ce veau d'or. Donc il y a bien un parallèle à faire. D'autres, ça ce sont les ralliés en particulier, tout ce qui les intéresse, la messe de Saint-Pie V, c'est bien, le reste, la foi, tout ça, on passe. Pour eux, c'est simplement une façon différente d'exprimer la même religion, ce qui est complètement faux. Vatican II n'est pas une façon différente d'exprimer la vraie religion. C'est il y a l'expression d'erreurs qui ont été condamnées par la Sainte Église, que ce soit le libéralisme, le salut par les fausses religions, etc. Il y a de nombreuses hérésies qui sont proclamées par Vatican II, et la confirmation de cette proclamation d'hérésie, eh bien, c'est tout le commentaire de Vatican II depuis plus de 50 ans. Est-ce qu'il va dans un sens soi-disant catholique, ce commentaire ? Pour la liberté religieuse, c'est pas possible. C'est le texte lui-même, et c'est l'opposé du syllabus et de quanta cura de Pie IX. C'est tout. C'est pratiquement même les mêmes mots, les mêmes phrases. Donc, il y a un problème. Et surtout, le problème, c'est ce magistère qui continue d'enseigner les mêmes choses, les mêmes erreurs. Donc l'interprétation de Vatican II, elle est claire, et elle est clairement moderniste, et elle est clairement contre la foi catholique, c'est tout. Il n'y a pas d'interprétation alternative qui serait faite par ces gens-là. Donc, première tentation, le ralliement. Autre tentation, c'est de s'inventer d'autres chefs spirituels. Donc il y a eux, ceux qui se sont inventés un pape. Hein, on pense à Palmar de Troya, on pense à Léon XIV alternatif, un hérétique aussi, qui existe depuis une dizaine d'années, peut-être qu'il est mort, j'en sais rien, enfin bref, qui se prend en même temps pour le grand pape et le grand monarque. Donc déjà, vous voyez qu'il y a du level. Hein. Bref. Donc on s'invente ou on prétend s'inventer une église parallèle, alternative, avec toutes les mêmes autorités, les mêmes instances de l'église. Sauf que ça, c'est pareil, c'est une fausse religion. C'est une fausse religion parce que ça va à l'encontre de la constitution même de l'église. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Continuer à transmettre les sacrements, l'ordre en particulier, ça ne va pas à l'encontre de la constitution de l'Église. Par contre, prétendre s'inventer un pape, s'inventer des juridictions, une autorité dans l'Église, ça va à l'encontre de la constitution de l'Église. Par conséquent, c'est aussi une alternative qui sécurise. On se dit, ouais, on a un vrai pape. Bon, sauf qu'il n'y a qu'une poignée de personnes, en fait, qui reconnaissent que ce soit celui de Palmar de Troya, je sais pas combien, Pierre III, 4, 5, je sais pas combien. Bref, Léon XIV ou Grégoire 40. Peu importe, il y en a plusieurs hein, dans la nature des hurluberlus comme ça, mais ça reste des sectes et on voit bien que ça n'a absolument aucun avenir. Il y a ceux, donc là j'ai donné un peu les deux extrêmes, hein, les ralliés et puis ceux qui s'inventent un faux papy. En milieu, il y a des nuances aussi de fausses religions. Par exemple, ceux qui prétendent reconnaître Léon XIV comme véritable pape, citer son nom dans le canon de la messe, ce qui est normal si on a un vrai pape, mais ne tenir absolument aucun compte de lui. Aucune obéissance. Qui se permettent de l'insulter, de le caricaturer, etc. Là aussi, c'est une fausse religion. Ils s'inventent leur propre veau d'or qui vient hein, malheureusement des principes instillés en particulier par Monseigneur Lefebvre. Là aussi, hein, on s'invente un faux médiateur, un faux prophète, une fausse figure prophétique, de même que les Hébreux se sont adressés à Aaron, et Aaron avait un pouvoir sur eux, il avait un pouvoir délégué par Moïse, mais ce pouvoir, c'était plutôt un devoir de transmettre la vraie religion, un devoir de rappeler aux Hébreux à ce moment-là le serment qu'ils avaient fait 40 jours auparavant. C'est ça qu'Aaron aurait dû faire. Il avait un devoir de dire, si Dieu veut qu'on attende, on continue d'attendre. Tout ce que nous avons à faire, c'est continuer notre vie selon les commandements de Dieu. Dieu, il avait donné ses commandements avant. C'est important de le comprendre, parce qu'au bout de ces 40 jours, Moïse, il descend avec les tables de la loi gravées par Dieu. Et donc, on aurait tendance à se dire, Dieu, il donne les commandements après. Non, il les a donnés avant, mais il les écrit sur les tables de la loi après. Ces mêmes tables de la loi que Moïse va briser de colère quand il va voir ce qu'ils ont fait. Et que Dieu va être obligé de refaire donc après, hein, bien sûr, puisque Moïse va remonter pendant 40 jours et 40 nuits. Vous n'avez pas voulu attendre, vous attendrez encore plus longtemps, c'est tout. Voilà la conséquence ultime pour les impatients. C'est de pécher gravement, de multiplier les péchés. Ça implique une punition, hein. Il y a 3000 hommes qui sont punis de mort, hein, donc les plus grands fauteurs par rapport à cela. Les autres, ils doivent boire le veau d'or mixé, mis en poudre et puis mélangé à de l'eau. pas sûr que c'était très très bon, pour montrer ben, que c'est rien, ce veau d'or, cette idole. Et puis surtout, ben, Moïse, il doit remonter pendant 40 jours et 40 nuits, donc ils vont devoir attendre encore 40 jours et 40 nuits. Donc l'impatience mène au péché. L'impatience dans la crise mène à se forger une fausse religion, que ce soit celle des ralliés, que ce soit les fausses théories de ceux qui voudraient tenir « Ah oui, oui, il est vraiment pape, mais de toute façon, on n'a jamais à lui obéir », alors même que le Concile du Vatican dit explicitement le contraire. Je vous le rappelle très souvent, n'est-ce pas, explicitement, hein, Vatican I dit ceci, non seulement sur les choses de la foi et des mœurs, mais même sur les autres choses, la discipline, etc., chaque chrétien, chaque évêque est tenu par l'obéissance au souverain pontife. C'est pas uniquement quand il est infaillible, l'obéissance, déjà. C'est pas une invention, c'est Vatican I. Donc prétendre que on peut reconnaître un pape et lui désobéir tout le temps, il y a un truc qui cloche, un truc qui va pas. Il faut revoir leur logiciel qui est une espèce de néo-vaudor, une nouvelle religion. Donc on ne doit pas se réinventer notre foi dans ce genre de circonstances. Les conséquences sont extrêmement graves. On le voit au niveau du peuple. L'impatience, l'oubli de la loi de Dieu, l'oubli des merveilles de Dieu mène à l'idolâtrie, à la fabrication de ce veau d'or, mène à une foi qui est dévoyée, à une morale qui est altérée, à un culte qui est altéré, puisque au lieu d'avoir le vrai culte et les vrais sacrifices, ils sacrifient devant une idole. Pire, leur culte est même encore plus dévoyé, puisque la Sainte Écriture nous dit qu'ils dansent devant le veau d'or. Bon, ça nous rappelle bien sûr les faux cultes qui sont fréquents dans nos églises, où tel prêtre, entre guillemets, va présenter des chiens pour les faire adopter. J'ai vu ça récemment. Non, c'est bien gentil hein, de d'accueillir des braves bêtes, et puis mais c'est pas la messe, ça. C'est pas ça. Ceux qui vont débarquer en trottinette sans tomber, ceux qui font des jongleries, etc. On dit que ce sont des cas exceptionnels, mais il y a quand même une grosse multiplication de ces cas exceptionnels, même pas loin d'ici, hein, à Luxeuil, où on nous parlait de messes ludiques, ou des messes où on fait des ateliers avec des tables pour discuter. Là aussi, on l'a rapporté même ailleurs. C'est un faux culte. On danse autour de ce veau d'or, de cette nouvelle liturgie. C'est une conséquence de l'oubli de Dieu, tout simplement. Donc, après, même dans la vraie liturgie, celle qui date d'avant, bien sûr, Vatican II, on peut se réinventer les choses, n'est-ce pas ? Ne pas suivre les lois de l'Église. Donc on fait son propre veau d'or, on imagine ce qui serait le mieux, soi-disant, pour la liturgie, etc. Et on le met de soi-même en pratique sans aucune autorité de l'Église. Tout ça, c'est un véritable problème. Ce que cet épisode nous rappelle, c'est que, selon le principe philosophique, celui qui veut la cause veut aussi l'effet. Si nous nous laissons aller, que ce soit au niveau personnel, dans la difficulté, dans le silence divin, d'ailleurs qu'on interprète hein, pour le silence divin, hein, souvent c'est extrêmement sentimental et subjectiviste. Dans la crise que traverse aujourd'hui l'Église, On aimerait en sortir. Comme les Hébreux aimeraient repartir à ce moment-là. Bon, sur les 40 jours, là, on poirote. Ils aimeraient repartir. Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Allez, hop, on se fait un veau d'or et on repart. Hein, puisque c'est ce qu'ils disent. Faisons-nous un veau d'or qui marche devant nous. On s'invente une résolution de la crise, ralliement, rien à faire du pape, on s'invente un faux pape, etc. Et hop, on repart, comme si de rien n'était. Évidemment, cela pose problème, parce que qui veut la cause veut l'effet. Donc celui qui s'impatiente, celui qui n'accepte pas la volonté de Dieu, puisque s'il y a une crise, c'est une volonté ou au moins une permission divine, puisque c'est un mal, effectivement. Cette permission divine, elle dépend de nombreux facteurs. On peut discuter longuement des causes qui sont multiples, hein, de la crise dans l'Église. On peut en discuter, ça n'empêchera pas la crise de se produire puisqu'elle est déjà là depuis 70 ans. S'inventer un veau d'or qui marche devant nous, s'inventer des fausses solutions, eh bien, on le veut déjà quand on s'impatiente. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, il faut reconnaître l'état actuel dans lequel sont la société et l'Église. Il ne faut pas... il faut être lucide par rapport à tout ça, et lucide avec le regard de la foi, pas en réinventant les choses. Parce que si on réinvente les choses, on est déjà dans la fabrication du veau d'or. Donc, si on s'impatiente, si on se focalise sur la durée, si on se focalise sur l'absence divine, si on se focalise sur l'absence actuelle d'autorité dans l'Église de pape, eh bien, on se dispose à fabriquer son veau d'or. Je dis bien, on se dispose. On l'a peut-être pas encore fabriqué, mais ça va arriver. Parce que si on s'entretient dans cette impatience, si on s'entretient dans ce qui va avec l'impatience, l'oubli des merveilles divines, l'oubli de la puissance divine, il est capable de tout. Il est capable de rétablir l'Église d'un claquement de doigts. C'est vrai, parce que Dieu peut tout. Jusque c'est ce qu'il va faire. Moi, j'en sais rien, mais il en est capable. Si on oublie nos devoirs envers Dieu et nos devoirs réels qui découlent de la foi et de la morale catholique, qui découlent des lois de l'Église, on se dispose à fabriquer notre veau d'or, notre fausse religion, tout en pensant être encore catholique. Ce qui est d'autant plus dangereux, comme eux considéraient encore adorer le vrai Dieu, Yahvé, mais sous cette apparence de veau d'or. Donc vous voyez que le parallèle, il est tout à fait intéressant. Donc, mes bien chers frères, gardons-nous de l'impatience. Adorons le mystère de la providence divine. Adorons un mystère, le mystère de la crise dans l'Église, qui nous dépasse. Par contre, nous savons, même dans cette absence, entre guillemets, divine, nous savons ce que nous avons à faire. Comme Aaron aurait dû rappeler les merveilles divines, comme Aaron aurait dû rappeler l'alliance divine faite avec son peuple, c'est tout ce que nous avons à faire. C'est à nous tenir là, au pied de cette montagne, en attendant que Dieu, si j'ose dire, redescende, en attendant que Dieu nous redonne un véritable successeur de Pierre. Mais en attendant, nous savons ce que nous avons à faire. Nous n'avons pas à réinventer la foi, nous n'avons pas à réinventer la morale, nous n'avons pas à réinventer les règles de l'Église. Nous avons à agir, à vivre exactement comme avant la crise dans l'Église, parce que c'est cela qui c'est la seule chose qui peut nous disposer à vivre correctement aujourd'hui et à réagir correctement quand le bon Dieu daignera redescendre, si j'ose dire, et se manifester. Donc demandons cette grâce à notre Seigneur Jésus-Christ d'être absolument fidèle malgré ses difficultés, malgré l'apparent éloignement de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.